bienvenue à Radio Canada International. C'est votre émission hebdomadaire Tam Tam Canada. Je suis votre hôte aujourd'hui, Alice Chantal Tchandem est mon nom. Je suis en remplacement de notre collègue Stéphane Parent, qui est indisponible hein, pour des raisons indépendantes de sa volonté. Dans ce studio, je suis en compagnie de deux de nos collègues, Samir Benjaffa de la section arabe de Radio-Canada International.
Bonjour, merci Samir. Merci Chantal de m'accueillir aujourd'hui avec vous.
Alors, nous avons également Marc Montgomery de la section anglaise de Radio-Canada International.
Bonjour.
Alors, ce que nous allons faire, c'est dans un premier temps, deviner le sujet de l'émission.
Ah oui. Okay. C'est avec des images.
Il manque les boules.
Ben, on ne va pas faire la boule aujourd'hui, je pense.
C'est sûr qu'on n'a pas les images, on n'a pas notre boule magique, mais on va jaser entre nous. Est-ce que vous savez c'est quoi le sujet de l'émission aujourd'hui?
Ben, c'est un secret. On va deviner.
Vous avez gardé ça secret.
Voilà.
Est-ce qu'on va
pas... Mais allons-y, on va pas s'attarder là-dessus.
Donne-nous un indice.
Un indice. Hospitalisation.
Ok, oh. Ça peut être coronavirus, mais on l'a déjà traité.
Un autre indice.
Ok, hospitalisation, ok. Hospitalité. Est-ce que c'est du...
Soins palliatifs.
Oh, attends,
c'est grave,
soins palliatifs.
C'est grave.
Est-ce qu'on n'est pas dans le traitement du cancer?
Non plus.
Attends, soins palliatifs. Est-ce que c'est santé mentale un peu, non?
Non.
Ok.
Bon, allons-y, c'est l'aide médicale à mourir.
Ah, ok.
On a une échéance, c'est le 11 mars.
Oui.
Cette échéance a été donnée par la juge Christine Baudouin au gouvernement fédéral pour procéder à un toilettage de la loi canadienne sur l'aide médicale à mourir. Mmh. Et donc, c'était relativement à un jugement qui a été rendu par la Cour supérieure du Québec. Et ce jugement concernait deux Montréalais. Et puis, leur nom, je crois, c'est Jean Truchon et Nicole Bradu.
Ah oui, monsieur, oui, voilà. Monsieur et la madame.
Donc, ces deux personnes qui sont atteintes d'une maladie incurable et donc qui ont bénéficié de l'aide médicale à mourir. Sauf que la juge, dans son jugement, estime que la loi est beaucoup trop restrictive.
Elle est presque discriminatoire.
Et discriminatoire contre
la Constitution.
Et contre la Charte canadienne. Des droits et libertés.
Ouais.
Et donc, Ottawa a lancé des discussions en ligne pour le moment. Il est question de recueillir donc, les avis de la population sur la façon dont il faut procéder pour élargir cette loi sur l'aide médicale.
Il y a eu un débat au Québec sur l'élargissement.
Oui, il y a eu tout un débat. Ici au Québec.
Enfin, un début de débat, puis ça l'a arrêté.
Il y a eu comme une grande glissade,
parce qu'on
s'est interrogé sur la possibilité d'élargir l'aide médicale à mourir aux personnes atteintes d'Alzheimer.
De santé mentale, qui ont des problèmes de santé mentale en général.
Aux personnes présentant des problèmes de santé mentale. Et donc, ça fait boule de neige, si vous voulez. Et aujourd'hui, notre invité pour en parler, donc, c'est Noa Ben Gayed, qui est donc la directrice à la recherche et au développement à la Fédération québécoise, à la Société québécoise d'Alzheimer.
Ah, okay.
Madame Noad Ben Gayed, bonjour.
Bonjour à vous tous.
Mais c'est un plaisir de vous avoir ce matin comme invité à notre émission Tam Tam Canada. Que vous suggère tout ce débat sur l'aide médicale à mourir au pays en ce moment?
Alors en fait, ce débat a quand même débuté ici au Québec depuis 2008. Le Québec a été pionnier dans la discussion et dans la réflexion en proposant déjà la loi sur les soins de fin de vie qui a donc été adoptée en 2014 et qui est entrée en vigueur en 2015. Et c'est un an après que le fédéral a emboîté le pas et donc a également proposé l'aide médicale à mourir aux personnes aptes à consentir aux soins. Il y avait quand même une différence entre les deux lois provinciales et fédérales, à savoir qu'il y avait justement ce critère de fin de vie qui était transversal à la loi québécoise, mais qui, dans la loi fédérale, il y avait la notion de mort raisonnablement prévisible. Comme vous l'avez très bien mentionné, le jugement de la Cour suprême au Québec a rendu ce critère de fin de vie anticonstitutionnel et donc le gouvernement fédéral et provincial doivent maintenant retourner à la table de réflexion et proposer finalement une alternative à ce critère-là. Le Québec s'est déjà prononcé par rapport à ce critère-là qui maintenant ne fait plus partie de la loi de soins de fin de vie. Et donc, pour le moment, bien sûr, les personnes qui sont en fin de vie ne peuvent pas encore recevoir l'aide médicale à mourir, mais elles le pourront donc dans quelques semaines, là, étant donné que ce critère n'existera plus dans la loi provinciale. Justement mentionné qu'il y avait un débat qui entourait maintenant cette question pour, d'une part, élargir maintenant l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Il y a eu une réflexion, en tous les cas, un début de réflexion pour également l'élargir aux personnes avec des difficultés de santé mentale, chose que la ministre de la Santé s'est déjà déclarée en faveur d'un arrêt, finalement, de ce processus-là, pour prendre le temps de la réflexion. Et je pense qu'on est également là pour les personnes inaptes, en tous les cas qui seraient atteintes d'un trouble neurocognitif majeur, tel que la maladie d'Alzheimer.
Et comment réagissez-vous hein, à la position hein, de... Enfin, il y a un collectif de médecins contre l'euthanasie. Il y a notamment M. Racicotte qui estime que cette loi-là incite les gens à prendre la décision de mourir. Donc, comment réagissez-vous par rapport à ça? Est-ce que c'est une loi contre la vie, dans le fond?
En fait, la loi sur les soins de fin de vie a été... d'une part établie avec un consensus, avec également sans partisanerie. Il y a eu énormément de consultations auprès de la population, des commissions également sur les soins de fin de vie où les parties prenantes avaient l'occasion de s'exprimer. Et la loi de soins de fin de vie a quand même plusieurs mesures de sauvegarde qui empêchent toute dérive, à savoir que d'une part, la personne doit être apte à consentir aux soins. Elle doit également être majeure et assurable par la régie de l'assurance maladie du Québec. Il doit également y avoir deux médecins qui se prononcent par rapport à la validité de la demande d'aide médicale à mourir. Et encore une fois, la personne actuellement, bien sûr, doit être en fin de vie, atteinte d'une maladie incurable, irréversible et dans des conditions avancées. Donc, les mesures de sauvegarde ont été mises en place pour éviter toute dérive et il n'y a pas eu de dérive dans les 4 dernières années, ce qui montre que ces mesures de sauvegarde jouent totalement leur rôle et que toutes les craintes qui avaient été formulées au départ ne se sont pas réalisées. Ce n'est pas un chèque en blanc pour la mort, étant donné que c'est vraiment la volonté de la personne de décider de partir en toute dignité, sachant qu'elle est atteinte d'une maladie incurable et surtout qu'elle est apte à consentir aux soins.
J'ai une question. Selon la loi, c'est quoi la différence entre l'aide médicale à mourir et l'aide médicale assistée par un docteur?
Alors, l'aide médicale à mourir est toujours prodiguée et donnée par un médecin. C'est le médecin qui donne l'aide médicale à mourir, qui est considérée comme un soin de fin de vie. Donc, non seulement il faut deux avis de médecin qui finalement évaluent de l'admissibilité de la personne à demander l'aide médicale à mourir. Cette demande est par la suite envoyée à la commission des soins de fin de vie qui a donc deux mois pour émettre un avis de conformité parce que la personne répond aux critères de la loi. Et par la suite, c'est toujours le médecin qui prodigue ce soin-là.
Est-ce que tu veux... c'est pas forcément la même situation dans d'autres pays, par exemple.
Exactement. Dans d'autres pays, notamment la Belgique ou les Pays-Bas, on parle plus d'euthanasie, mais c'est toujours basé sur, encore une fois, sur l'administration par un médecin.
Parfait. Est-ce qu'on devrait, par exemple, suivre le modèle de la Belgique qui a étendu cette aide-là à toute personne souffrant d'un problème de santé mentale?
Ça, c'est un débat.
Je pense qu'on n'en est pas encore là. Il faut encore avoir cette réflexion. Il faut que les parties prenantes, que la société civile soit à l'aise avec cette notion d'étendre l'aide médicale à mourir à des personnes avec des problèmes de santé mentale. Actuellement, le débat est plutôt concentré autour de l'élargissement de l'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes, notamment pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs.
Madame Bengaïd, avec la décision de la juge, qu'est-ce qui va changer? Ça, c'est pour nous, pour ceux qui nous suivent. Qu'est-ce qui va changer à partir du 11 mars? C'est ça que la loi devrait être modifiée d'ici le 11 mars. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Qu'est-ce qui devrait changer? Qu'est-ce qui va se passer après le 11 mars si on doit appliquer la décision de la juge? Et il y a deux volets. Il y a au niveau fédéral et au niveau provincial. Là, on est en train de parler du niveau provincial. Est-ce que vous pouvez un peu élargir votre explication au niveau fédéral, s'il vous plaît?
Alors, pour le moment, donc, comme je vous disais, le Québec a finalement suspendu ou éliminé le critère de fin de vie.
C'est ça,
ce qui veut dire qu'à partir donc, du 11 mars prochain, une personne qui est apte à consentir aux soins, qui est majeure, qui est atteinte d'une maladie incurable, avancée et irréversible, pourra demander l'aide médicale à mourir.
Et attendez, donc excusez-moi de vous interrompre, même si elle n'est pas, si elle n'est pas raisonnablement mourante, c'est ça?
Même si elle n'est pas en fin de vie.
Merci.
Donc maintenant, au niveau du fédéral, il y a encore des représentations au niveau de la commission parlementaire pour justement respecter ou en tous les cas répondre à la demande de la juge et donc pour enlever le critère de mort raisonnablement prévisible. Ce qui veut dire, encore une fois, que le fédéral devra emboîter le pas au Québec, et s'atteler plus rapidement maintenant à ce critère-là qui devra être supprimé étant donné que la juge a jugé qu'il était anticonstitutionnel.
Mais est-ce qu'un des problèmes avec la loi actuelle, c'est le fait qu'une personne peut remplir tous les critères à un moment donné, mais ne veut pas mourir immédiatement? Mais dans le délai, parce que la question apte à décider, peut-être quelque chose comme l'Alzheimer, par exemple, peuvent affecter sa capacité de décider. À un moment donné, elle a dit « oui, je veux », mais en l'entretemps, il y a ce problème qui arrive que maintenant, elle ou il n'est plus capable de décider mentalement.
Je vais ajouter quelque chose avant qu'elle intervienne. On sait qu'au Québec, il y a eu un comité d'experts qui a réfléchi sur cette question-là et qui a formulé des recommandations. Et là, c'est toute la notion du consentement préalable et le fait de pouvoir désigner une tierce personne pour, je veux dire, rappeler les dernières volontés du patient au médecin traitant. Je ne sais pas si on abordera dans le même sens.
Oui, oui. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Oui. D'une part, il y a uniquement un tiers de demandes d'aide médicale à mourir qui n'ont pas été finalement répondues. C'est d'une part, soit parce que la personne est décédée avant qu'elle ne reçoive l'avis de la commission des soins de fin de vie, soit parce qu'elle est devenue inapte au moment finalement où elle a reçu la réponse et donc elle n'a pas pu avoir accès à l'aide médicale à mourir. C'est sûr que maintenant, il y a tout un autre débat qui s'ouvre, étant donné que là, maintenant, on s'intéresse aux personnes inaptes qui ne sont pas incluses. Elles ne sont pas incluses ni dans la loi fédérale, ni dans la loi provinciale pour recevoir l'aide médicale à mourir, parce que justement, il y a ce critère d'aptitude à consentir aux soins et également le critère finalement même si elles sont atteintes d'une maladie grave et incurable avec une dégénérescence et un déclin cognitif avancé. Par contre, elles ont été incluses dans la loi québécoise au niveau des directives médicales anticipées, à savoir qu'une personne qui est en soins de fin de vie, qui également est atteinte d'un trouble neurocognitif majeur de type Alzheimer, peut demander, en fait, de manière anticipée, à ne pas recevoir un certain nombre de soins qui sont la respiration cardiovasculaire, qui est la dialyse et l'alimentation et l'hydratation forcée. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne, maintenant, vous, moi, on peut remplir notre directive médicale anticipée. D'ailleurs, il y a plus de 57 000 directives qui ont été rédigées et enregistrées au registre des directives médicales anticipées. Mais c'est un nombre infime par rapport finalement au nombre de personnes qui pourraient y avoir recours. Et donc, qui maintenant, en étant aptes, décident qu'au moment où elles seront inaptes, de ne pas recevoir ces soins. Et la conséquence de ne pas recevoir ces soins, ben, c'est inévitablement la mort.
La mort.
Maintenant, le comité d'experts dont vous mentionnez, justement, a émis 14 recommandations pour aller dans le sens d'un élargissement de l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes. Il faut savoir que l'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée dans une directive médicale anticipée. Donc, on ne peut pas demander... finalement à avoir recours aux soins d'aide médicale à mourir dans sa directive médicale anticipée. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est uniquement ces quatre soins dont je vous mentionnais. Mais ce comité d'experts a émis justement 14 recommandations qui iraient en faveur d'une éventuelle ouverture ou élargissement de la loi sur les soins de fin de vie pour les personnes inaptes. Notamment dans des situations de troubles neurocognitifs majeurs. Vous avez mentionné effectivement que la personne donc pourrait demander actuellement, en étant apte à consentir aux soins, qu'au moment où elle deviendrait inapte, elle puisse avoir accès à l'aide médicale à mourir.
Non, ça n'en...
qu'une tierce personne viendrait finalement initier cette demande-là auprès du médecin. Cette tierce personne pose quand même un certain nombre de défis, de questions. Cette tierce de personne peut également être une personne qui a un intérêt pour la personne. Ça peut également être une autorité externe impartiale qui donc pourrait initier la demande d'aide médicale à mourir dans des situations d'inaptitude. Et donc, bah, là, on se demande quel va être le rôle de cette tierce personne. Est-ce que, par exemple, le curateur public devra jouer un rôle l'aide médicale à mourir pour une personne inapte? Ça pose énormément également de malaise au niveau des médecins qui devront prendre cette décision en tous les cas, définir quand est-ce qu'il est le moment finalement d'avoir recours à l'aide médicale à mourir pour une personne inapte, puisqu'à ce moment-là, elle ne pourra peut-être pas exprimer sa volonté.
Sa volonté, tout à fait.
Et donc, ça pose énormément de défis. Tout le monde ne se sent pas à l'aise, sachant qu'actuellement, il n'y a que 3% des médecins qui donnent l'aide médicale à mourir. Et donc, ça veut dire également que tous les médecins ne seront certainement pas à l'aise non plus à la donner dans des conditions d'inaptitude.
D'où l'importance hein, pour la personne qui sollicite l'aide médicale à mourir à protéger sa demande par un acte, un acte notarié. On a entendu un collectif d'avocats se prononcer par rapport à cette question-là récemment, c'est-à-dire lorsque la personne est encore apte à prendre une décision éclairée, faire en sorte que sa décision soit protégée dans un cadre légal pour donner plus de latitude au tiers qui va le représenter après qu'il soit rendu entre parenthèses, légumes.
Alors, justement, le forum du 27 janvier dernier a abordé cette question. Est-ce qu'on devrait avoir une demande d'aide médicale à mourir anticipée ou une directive de demande médicale anticipée? Parce que c'est toute la différence finalement au niveau légal et quelle est la portée ou la responsabilité par la suite du tiers des professionnels de la santé de respecter les volontés de la personne qu'elle a émises lorsqu'elle était apte à consentir aux soins. Et là, en fait, c'est sûr, les avis sont assez vont quand même dans le sens d'une directive, à savoir que c'est la personne... finit ce qu'elle veut recevoir, quand est-ce qu'elle veut recevoir, comment est-ce qu'elle veut recevoir. Et encore une fois, là, c'est, je dis encore, là, on est encore dans le flou. On est au début du débat. Je pense qu'il va y avoir, il va y falloir préciser les critères pour, par rapport à cette directive ou à cette demande anticipée d'aide médicale à mourir. Comme les directives médicales anticipées actuellement, elles sont inscrites dans un registre, donc le registre des DMA. La personne peut le faire notarier ou pas. Tout ce qu'il faut, c'est d'avoir deux témoins. Les témoins également n'ont pas à connaître le contenu de la directive médicale anticipée. Mais par contre, c'est le registre qui va permettre par la suite, le moment venu, aux professionnels de la santé de s'y référer. Et la famille donc, pourra dire donc, aux professionnels qu'il y a une directive médicale anticipée au registre. Et donc, ils auront l'obligation, il y a une obligation de respecter la directive médicale anticipée. Alors, est-ce que c'est là qu'on veut aller? En tous les cas, c'est a priori le consensus qui semble se proposer pour que ce soit une directive plutôt qu'une demande. Mais encore une fois, on est encore vraiment au début des conversations et puis surtout qu'il y a beaucoup de choses à élaborer et à définir avant de se dire ben, est-ce que c'est une directive ou une demande. Notamment, c'est le quand, le comment, par qui. Quel est également l'impact que ça peut avoir sur la tierce personne qui généralement est le conjoint, mais encore une fois ça peut être une autorité externe, sachant qu'un certain nombre quand même de personnes sont en situation d'isolement, et surtout c'est les médecins actuellement, c'est eux qui sont responsables donc de donner l'aide médicale à mourir, mais on le sait très bien, en dans une situation où la personne devient inapte, où elle n'est plus généralement à domicile, elle est en hébergement de longue durée, et a priori, c'est peut-être plus le médecin de famille qui la suivait, qui est encore son médecin traitant, et donc bah, ça suppose également une continuité des soins, étant donné qu'actuellement, l'aide médicale à mourir est quand même donnée à 80% par des médecins de famille. Donc, vous voyez, il y a plusieurs choses à régler, à définir également, pour que si on décide d'aller vers un élargissement d'aide médicale à mourir pour les personnes inaptes, ça se fasse avec des mesures de sauvegarde très claires, des balises, des critères qui permettent vraiment de protéger les personnes qui sont des personnes vulnérables et donc qu'il faudra protéger et qu'il faudra toujours respecter et traiter avec dignité, même lorsqu'ils demandent donc l'aide médicale à mourir. Donc, c'est encore un débat, je pense, qui est très large.
Tout à fait.
On ne fait que commencer, mais je pense qu'il faudra être très prudent.
Tout à fait. Oui, Madame Bengaed, mon souci, il est toujours pédagogique. Donc, en ce moment, si une personne est inapte, la seule chose qu'elle peut faire, c'est d'avoir une directive médicale anticipée pour demander l'arrêt des soins, mais pas l'induction de la mort, comme ça se fait maintenant. Est-ce que c'est
une
ça
personne inapte, une personne inapte ne rentre pas du tout dans le critère de la loi. Elle Parfait. Ne peut ni demander l'aide médicale à mourir, ni avoir une directive d'aide médicale anticipée. Les personnes actuellement inaptes ne sont pas du tout considérées dans la loi.
Mais
donc
elle
une
peut...
personne, mm-hmm. oui.
Attends, donc ça veut mais, dire mais... allez-y.
Ça veut dire pardon qu'une personne actuellement inapte atteinte de la maladie d'Alzheimer ne peut pas avoir recours à l'aide médicale à mourir.
Mais elle peut demander auparavant qu'on arrête les soins pour qu'elle puisse mourir naturellement. Non, même pas ça.
Non,
étant donné qu'elle est inapte.
Au moment.
Non. Je pense que veut dire que durant la période où
elle est apte.
Était apte, mais elle ou il devient inapte par la suite.
Exactement, effectivement. Donc, une personne qui reçoit un diagnostic d'une maladie incurable de type Alzheimer actuellement et qui est encore apte
lucide,
à consentir aux soins, peut rédiger pourra en tous les cas, au 11 mars prochain, mm-hmm. pourra rédiger une demande d'aide médicale anticipée. Il faudra voir Pour le moment, c'est encore quelque chose qui n'est pas,
okay.
c'est pas légiféré.
Tout
Là,
à
c'est
fait.
La proposition, c'est une proposition.
Okay.
Actuellement, le seul critère qui va s'enlever le 11 mars, c'est le critère de fin de vie. Mais
okay.
la personne doit encore être apte
à prendre la décision
oui,
conserver son droit initial lorsqu'elle ne sera plus lucide.
Mais je peux demander l'arrêt des soins, pas l'aide médicale à mourir. Est-ce que ce n'est pas suffisant parfois? Ou on est
Alors,
ailleurs?
Effectivement, là, ça, c'est autre,
okay.
un autre débat, à savoir, c'est l'acharnement thérapeutique. Là, effectivement, là, je veux dire, une personne apte peut demander à ne pas avoir d'acharnement. Thérapeutique, là c'est un autre.
C'est autre chose, ok.
C'est, autre chose, okay.
c'est notre souci pédagogique seulement.
C'est un tout autre débat. Voilà, je vais revenir un peu sur une position du Premier ministre du Québec, François Legault. On se souvient, lorsque tout ce débat a été lancé, il a dit qu'il était, enfin sur un plan purement personnel, qu'il était pro-vie et donc un peu en faveur de l'acharnement thérapeutique. Sauf qu'il a dit s'en tenir à la volonté populaire, à la volonté de la population québécoise qui serait largement ouverte à ce qu'on élargisse la loi. Et donc, je me pose quand même quelques questions, quelques interrogations par rapport à la responsabilité du Premier ministre. Est-ce qu'il devrait davantage écouter sa population contre le collectif de médecins contre l'euthanasie, hein, qui sont totalement... Enfin, je veux dire, c'est des avis qui sont dos à dos.
Je pense que ce débat-là fait appel à nos valeurs. C'est un débat qui est très également personnel, qui est également parfois empreinte de beaucoup d'émotions. Parce que soit on a vécu une situation pareille où un proche a dû finalement se rendre jusqu'en fin de vie et peut-être perdre de sa dignité. Donc c'est un débat qui est très empreint d'émotion. Par contre, la loi sur les soins de fin de vie s'est faite de manière, comme je vous le disais tantôt, de manière très collégiale, antipartisane, avec un consensus. Et c'est pour ça que c'est important de continuer dans cette voie-là, si on veut élargir l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes, qui va soulever énormément de débats. Il y en a qui vont refuser d'avoir recours à l'aide médicale anticipée, ou en tout cas à l'aide médicale à mourir de manière anticipée. Il y en a qui vont faire ce choix-là, mais je pense que qu'en tant que société, on doit y aller avec le consensus. On doit également, par la suite, si la loi le permet, y aller avec les volontés de chacun et respecter ces volontés-là. Que M. le Premier ministre soit en accord ou en désaccord avec la loi, je pense que ça doit se faire de manière antipartisane, où en tous les cas la vulnérabilité de chaque personne est prise en compte, également dans un souci de protéger les personnes les plus vulnérables. Il est vrai que le dernier sondage Léger paru en avril était en faveur, 3 personnes sur 4 étaient en faveur de l'élargissement de l'aide médicale à mourir. Donc, mais ça reste un choix, ça reste un choix personnel. Il n'y a que 4000 demandes d'aide médicale à mourir qui ont été formulées ces dernières années. Ça veut dire que même si c'est offert, même si la loi le permet, ça ne veut pas dire que les gens se sont empressés de demander l'aide médicale à mourir. Et ça a surtout été demandé également dans des situations de cancer, de personnes en fin de vie avec un cancer incurable. Donc, voyez, c'est pas parce que la loi le permet que les personnes vont s'en prémunir. Ça reste quand même un choix personnel et il faut le respecter. Et encore une fois, une personne, advenant qu'elle devienne inapte et qu'elle décide qu'elle ait recours à l'aide médicale à mourir de manière anticipée, bah, si c'est son choix, il faudra le respecter. Aussi bien une personne qui ne formulera pas d'aide médicale anticipée, et c'est également son choix, et il faudra le respecter.
Je suis allée un peu sur les réseaux sociaux pour voir ce que les Canadiens et les Québécois pensent de ce sujet-là d'une façon générale. Il y a toutes sortes d'avis. Il y en a qui pensent que dans la future loi fédérale, on devrait intégrer une espèce de définition conceptuelle pour que les gens puissent décider de façon éclairée, comprendre c'est quoi un consentement préalable, c'est quoi la notion de souffrance atroce, c'est quoi la notion de mort, de condamnation, de critères de fin de vie. Donc, il faut vraiment définir un certain nombre de mots, de concepts pour que les gens puissent vraiment décider en toute connaissance de cause.
Effectivement, vous avez tout à fait raison. Il doit y avoir une sensibilisation, une information qui est donnée aux personnes qui décident d'aller vers l'aide médicale à mourir. Et d'ailleurs, un chiffre qui est parlant, comme je vous disais, uniquement 57 000 personnes ont eu recours à des directives médicales anticipées et certainement, elles peuvent le faire également de manière totalement autonome, sans l'avis d'un médecin. Donc, encore une fois, il faut que les personnes soient connaissantes de ce que veut dire qu'on accepte ou qu'on refuse une réadaptation cardiovasculaire, une réanimation cardiovasculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les conséquences d'avoir ou de ne pas avoir sa dialyse? Comment va se faire l'alimentation forcée, son refus ou son acceptation? Donc, tout ça doit être vulgarisé, ça doit être également, ça doit faire partie finalement de l'information que donne un médecin à son patient lorsqu'il va parler d'une demande d'aide médicale à mourir de manière anticipée. Mais ça veut dire également qu'il faut encore sensibiliser la population à la présence de directives médicales anticipées. Les professionnels de la santé ne savent même parfois pas qu'est-ce que c'est, où aller les chercher, ou qu'est-ce que ça inclut, ou quelle est leur responsabilité par rapport à cette directive. Est-ce qu'ils doivent la suivre ou pas? Donc, je veux dire, on est encore... la loi, finalement, elle est encore jeune et il faut encore beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation à faire à différentes strates de la société, auprès des professionnels, comme auprès des patients, comme auprès des familles. Mais en tous les cas, c'est pas un débat facile et il faut le faire surtout de manière très sereine.
Tout à fait, tout à fait. Et ce débat-là pose toutes sortes de questions, y compris des questions éthiques. Voilà, c'était très, très éclairant. Oui, c'était Madame Noa Ben Gayed, qui est directrice à la recherche et au développement à la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. C'était vraiment éclairant.
Merci. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Merci.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Alors, les collègues.
Un sujet léger.
Un dernier volet à notre émission. C'est quoi votre image de la semaine?
Ah, ok.
Une image qui vous a...
Moi, c'est lié au coronavirus.
Au corona.
Je ne sais pas, j'ai l'image du médecin.
Moi aussi, j'ai l'image de ce pauvre médecin
chinois qui...
Oui, qui est mort vraiment à la fleur de l'âge.
Et qui a alerté.
C'était un lanceur d'alerte dans le cadre de cette maladie-là, du coronavirus. Ah,
donc c'est ça l'image?
Moi aussi, c'est mon image de la semaine. Je ne sais pas pour vous, Marc, mais c'est vraiment ce médecin qui s'est sacrifié pour les autres.
Bien sûr, le coronavirus, mais il faut tenir compte que ici au Canada, le risque, et dans plusieurs autres pays au monde, le risque est très minime.
Tout à fait, tout à fait.
Le monde s'énerve pour ça, mais dans le fond, une maladie qui est pire en termes de mortalité,
c'est la grippe
saisonnière, tout à fait, oui.
Ça, fait plus de 5000 victimes au Canada chaque année.
Ça, c'est la petite nuance très intéressante.
D'ailleurs, la semaine dernière, on avait un invité qui nous parlait de cela. On a tendance à dramatiser par rapport au coronavirus, mais il fait beaucoup moins de victimes que la grippe saisonnière que nous avons au Canada tous les ans. Et puis, il faut également mentionner que sur la base militaire de Trenton en Ontario, on a ces Canadiens qui étaient en état de confinement en Chine, qui sont arrivés. Ils
aujourd'hui,
ont atterri.
Moi, j'ai aimé leur hôtel dans lequel ils vont être.
Ah oui,
c'est de très belles chambres. Ils ont le Wi-Fi, les enfants ont du jouet. Je trouve que c'est intéressant.
Tout à fait, c'est super intéressant, sauf qu'ils seront maintenus en confinement pendant 14 jours.
Mais c'est mieux que dans les bateaux ou dans les petites cabines sur les bateaux de croisière.
Attention, le gouvernement écarte le terme confinement, là. C'est oui. une observation.
C'est une observation, OK. C'est, pas ben, c'est sûr que c'est un terme beaucoup
mais
plus
mais c'est mieux que sur les bateaux au Japon, là, où les gens sont confinés dans des petites cabines qui sortent 5 minutes juste en haut. C'est très
tout
difficile.
Tout à fait, tout à fait.
Je pense qu'à Trenton, ils sont bien traités.
Mais oui, ils sont très, très bien traités. Mais c'est sûr que ce sujet-là nous interpelle tous. Surtout, on a un nombre de bilans de victimes oui, qui ne cessent d'augmenter.
Aujourd'hui, on est à 600,
l'OMS parlait 650 de 31 000 oui, cas, 31 000 cas, avec plus de 600 personnes qui en sont mortes.
Attends, j'ai les chiffres.
Et on a eu un mort à l'extérieur de la Chine.
On a 600...
C'est aux Philippines.
Exactement, voilà. Un mort aux Philippines, 637 voilà. en Chine.
En Chine.
Et 31 211 voilà. cas.
Plus de 30 000.
Et à l'extérieur de la Chine, il y a 270 cas.
Tout à fait.
Confirmés. Je pense qu'ici au Canada,
on a 5.
Il y a 5.
5.
Il y a 5 cas, donc 3 deux au moins en Ontario.
Qui sont,
puis,
qui
donc,
sont
en Colombie-Britannique,
déclarés déjà
en okay. état de rémission progressive.
Oui, ouais, mais c'est ça. Bon, il y a. Voilà. C'est ça. Donc, le risque, il est là quand même, la propagation, c'est un nouveau virus. Mm. Cette façon d'agir du gouvernement, elle est responsable. Il faut qu'il le fasse. C'est vrai que le virus de la grippe, il en tue plus, mais en plus, on a beaucoup d'échanges avec la Chine. Donc,
tout à fait, tout à fait.
On a l'Ouest canadien où il y a une forte communauté,
chinoise.
Donc, il y a des échanges. Il y a des échanges, donc le risque, il est là.
Mm-hmm. Ouais. Ben, tout comme Toronto puis Montréal aussi.
Exactement.
Ben, surtout dans l'Ouest, mais Toronto, c'est énorme aussi, le nombre mm-hmm. De personnes qui ont descendance de connexion avec la Chine.
En plus, ils sont toujours. Il y a un mouvement de personnes
tout
entre
à
les
fait,
pays.
Tout
en,
à fait.
Avec la mondialisation, donc les déplacements sont toujours là. On n'est pas juste descendants de.
C'est ça. Il faut également mentionner la nécessité d'une solidarité internationale. Oui, ça a été maintes fois soulevé par l'Organisation mondiale de la santé. On entendait encore le directeur général de l'OMS le dire ce matin. Et en Chine, il manque beaucoup de choses, beaucoup de matériel médical, les masques, les appareils respiratoires sont en rupture de stock. Et donc, on a entendu le directeur général lancer un appel à une solidarité internationale. Surtout les pays les plus nantis ne doivent pas oublier les pays les plus pauvres exactement. Qui ont besoin d'un encadrement, d'un appui en particulier pour pouvoir contenir d'éventuels cas. Et donc, il y a cette problématique-là. Et puis, il y a l'OMS qui recherche activement 675 millions de dollars.
Pour faire des recherches.
Oui, pour soutenir les laboratoires de recherche. Au Canada, notamment, on a notre laboratoire de Winnipeg qui travaille activement à trouver un vaccin contre ce coronavirus qui est toujours en cavale et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Ça, ouais. Voilà, et à Montréal aussi, si on a un centre qui fournit des renseignements, des éléments, ce qui concerne la protection, parce qu'on a quand même des personnes qui arrivent de là-bas, on ne sait pas si ces personnes-là sont malades ou pas, si elles vont développer la maladie ou pas.
En plus, la donc, période d'incubation, c'est 14 jours.
C'est 14 jours, et en attendant, vraiment, la population est sensibilisée. Il y a au Québec également, j'entendais la ministre McCain donner quelques directives à ce sujet-là ce matin. Voilà, donc le Canada prépare sa stratégie de riposte en cas
elle est en place et elle est en cours, la stratégie, exactement.
Voilà, donc dans exactement 2 minutes, on aura terminé, mais on ne saurait partir vraiment sans dire un mot, hein, sans revenir hein, sur le cas de ce médecin lanceur d'alerte.
Lanceur d'alerte oui.
Vraiment, j'ai eu le cœur totalement brisé hier quand j'ai appris qu'il était décédé.
C'est un ophtalmologue et qui avait alerté ses collègues sur...
collègues, sauf que la police locale l'a accusé divulguer de fausses... de propager de fausses nouvelles. Donc le pauvre, il a été fustigé. Et finalement, il a payé de sa vie en voulant sauver celle des autres.
Ça. Et ce matin, le gouvernement chinois a décidé d'une les autorités chinoises, ils ont décidé d'une enquête pour voir qu'est-ce qui lui est arrivé, une enquête approfondie.
Mais c'est beaucoup trop tard, je trouve. S'ils avaient pris en compte
ce qui me surprend, c'est son
alerte dès le départ, on n'en serait peut-être pas là.
Moi, ce qui me surprend, c'est qu'il a 34 ans et il en est mort. Parce que pour moi, je m'attendais à ce que les personnes qui décèdent à cause du coronavirus soient atteintes de maladies, soient plus âgées. Mais finalement, on peut en mourir
À tout âge, ça peut arriver.
C'est un peu surprenant.
Et n'oublions pas, il laisse une jeune femme qui est enceinte. Qui va bientôt donner naissance à un bébé. Raison de plus pour avoir très, très mal. Donc voilà, nous sommes arrivés au terme de cette édition de Tam Tam Canada. Et ben, je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de nous écouter. Écoutez, les amis, à la semaine prochaine. Cette fois, Stéphane sera de retour.
Merci beaucoup, Chantal,
de rien, pour l'animation. Au revoir.
Merci.
Et merci à nos auditeurs.